rappelle simplement que Jésus était crucifié et ressuscité dans les années 30 après lui-même, évidemment. Sauf que le petit problème qui n'en est plus un pour vous, je pense, c'est que Jésus est né avant Jésus. Ça, vous le saviez. Il est né à moins 6 avant Jésus, parce que Hérode le Grand était encore vivant quand il est né, et on le sait par le fait qu'il a voulu faire mourir un concurrent possible, c'est-à-dire l'enfant de Bethléem, et il est mort vite après, donc dans la datation absolue établie, c'est en moins 4. Donc Jésus est né avant moins 4, on pense que c'est moins 6, moins 5, voilà. Donc cette erreur, d'où vient-elle? Eh bien, c'est Denis le Petit. Bon, ça veut dire qu'il était petit par la taille, mais un moine qui a pensé toute l'ère chrétienne et qui a proposé par le pape de l'époque un calendrier universel pour la chrétienté, on pourrait dire. Et bon, ce calendrier universel n'a pas tenu compte de quelques petites choses, donc c'est une petite erreur qui s'est produite, mais on ne peut pas dire qu'il se soit trompé de beaucoup, beaucoup quand même. Donc c'est quand même admirable. Et puis maintenant, eh bien... La référence est quand même l'ère chrétienne, on pourrait dire. Voilà, en anglais, ils disent ça. Ici, je crois, là, non ? Christian era, de l'ère chrétienne. Et nous, c'est, on dit tout le temps, après Jésus-Christ. Bon. Alors, ceux qui ne veulent pas être chrétiens ou pas être chrétiens disent de l'ère commune. Le C de Christ est devenu commun, voilà. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, il se trouve que c'est une datation qui s'impose un peu pratiquement à tout le monde. Bon, même si les Juifs, par exemple, sont en l'année 5700 et quelques, puisqu'ils ont compté, eux, à partir de la naissance d'Adam et Ève. Bon, c'est leur façon de compter. Enfin, il y a d'autres civilisations aussi qui ont d'autres façons de compter, etc. Enfin, pour nous, en tout cas, nous étions ce matin dans l'année 67. Première révolte juive contre les Romains, c'était le fait de Flavius Joseph, qui ne s'appelait pas ainsi. Il s'appelait Joseph ben Matathias. C'est bien juif, ça, hein. Et puis, il est devenu Flavius Joseph quand il est devenu romain. Et qu'il a fait allégeance à l'autorité romaine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu un grand écrivain, parce qu'il avait accès sans doute à toutes les sources. Bon, même si la question des sources a été posée ce matin. Mais disons qu'il a fait une œuvre magistrale et monumentale en écrivant d'une part les antiquités judaïques, où il raconte, en latin, il raconte pour les Romains, pour les non-juifs, l'histoire de la Bible depuis le début. Alors, très intéressant, parce que la manière dont il raconte est la manière reçue dans les communautés. Et donc, quelquefois, ce sont des interprétations. Donc, c'est intéressant de savoir quelle est l'interprétation de Flavius Joseph. Donc ça, c'est les antiquités judaïques. Mais aussi, il a écrit la guerre des Juifs contre les Romains. Voilà, la guerre des Juifs contre les Romains. Et il était bien renseigné pour la première partie de la guerre, parce qu'il était lui-même chef de la guerre, de guérilla, dans le nord, en Galilée. Et les Romains ont commencé par réduire la Galilée. Ça a été une bataille assez sévère. Flavius Joseph a été défait. Et toutes ses troupes aussi. Donc, il a vécu la guerre ensuite par procuration, si on peut dire, puisqu'il était devenu, il allait devenir romain. Et donc, ça continue. 67, c'est la Galilée qui tombe. Puis, il se tourne vers Jérusalem. Alors, les causes lointaines. Pourquoi cette guerre des Juifs? Pourquoi cette guerre des Juifs contre les Romains? Bon, on a une attestation indirecte dans les évangiles. Sur la question de l'impôt, faut-il payer, etc. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, etc. Donc on sait que c'est un pays qui est occupé par les Romains. On sait par l'évangile aussi qu'il y a des zélotes, il y a des gens qui n'acceptent pas cette dure oppression. Mais on le sait aussi par Flavius Joseph, qui dit qu'il raconte toutes les révoltes qu'il y a eu. Et beaucoup étaient le fait des zélotes, si vous voulez, mais enfin des nationalistes, si on peut dire. Mais aussi des religieux, pour deux raisons. D'abord pour des raisons religieuses. Cette terre est la terre de Dieu. Il n'est pas possible que des goyim, que des romains, prennent pied sur cette terre. Ça, c'est une raison religieuse, quoi. mais une raison aussi économique, politique, d'oppression, c'est que souvent, l'autorité romaine, enfin, c'est-à-dire l'autorité d'Hérode d'abord et puis de ses successeurs, Archélaüs et puis les autres préfets romains, avaient pour mauvaise habitude de financer leurs travaux et leurs dépenses publiques en puisant dans le trésor du temple. Et ce trésor du temple était relativement conséquent parce que chaque juif dans le monde entier devait payer un shekel et demi ou je ne sais pas combien par an. Et tout ça arrivait dans le trésor du temple. Alors comme c'était un trésor, un impôt mondial, on pourrait dire, mondial, mais ça faisait quand même je ne sais pas combien, mais enfin des centaines de kilos de pièces. Et voilà pourquoi il y avait tous ces changeurs sur le temple, autour du temple. Hein, on entend dire que Jésus s'est fâché contre eux. Mais voilà, donc il y avait tout un système, parce que le judaïsme était déjà universel, et il fallait revenir avec des pièces qui étaient des pièces grecques, latines, de Syrie, d'ailleurs, d'Égypte et compagnie. Donc il y avait des changeurs. Donc la deuxième raison, c'est que les préfets et autres gouverneurs romains avaient pour mauvaise habitude, les procurateurs, de puiser dans le trésor. Alors à chaque fois, c'était des révoltes. Enfin, bon. Donc vous voyez, raison religieuse, parce que les autorités eh bien, ne sont pas juives. Et puis raison économique et politique, parce qu'ils puisaient dans le trésor. Donc à chaque fois, il y avait des révoltes, etc. La dernière a été de trop, sans doute, puisque 67, les Galiléens ont été soumis par Rome. Jérusalem est tombée en 70, on en a parlé ce matin. La tradition juive s'est ressaisie autour de Jamnia pour recueillir le meilleur des sentences rabbiniques, mais aussi pour sélectionner les textes qui leur serviraient de canon des Écritures. Et voilà donc une première œuvre. Et puis ensuite, après 70, quand Jérusalem est tombée, eh bien, ils se sont tournés vers les autres places. Alors la plus importante, c'est Massada. Bon, on le sait, d'une part, en raison de Floyd Joseph qui nous a raconté cela. Bon, peu importe les sources. Mais on le sait aussi par l'archéologie. L'archéologie, donc, des années 66, 7, 8, enfin, etc. Donc, on montrait le lieu tel qu'il a été quitté, sauf les Byzantins qui ont réoccupé par la petite chapelle. Mais l'archéologie a montré ce qui était décrit par le récit, par l'interprétation peut-être, mais au moins ce qui était décrit. Donc 73, tout est fini pour Massada. Les Romains vont aller en même temps du côté de Macéronte, qui était encore un château, enfin un grand fort, du côté de la Jordanie actuellement, là où Jean-Baptiste a été emprisonné, là où il a été demandé, dont la tête a été demandée par la fille d'Hérodiade. Et donc Macéronte a été réduit aussi par les Romains et Qumran a disparu parce que justement les Romains, se rendant à Macéronte, ils ont aperçu le fortin sur lequel nous avions le promontoire d'où nous pouvions observer l'ensemble des ruines de Qumran. Ils ont trouvé qu'il y avait un fortin, c'était pas possible de laisser derrière eux un lieu qui pouvait servir de résistance aussi. Ils ont pris Qumran. Les survivants, ceux qui n'étaient pas partis à Massada, ont dit que, c'est Floyd Joseph qui raconte toujours, eh bien, les Romains les ont jetés par-dessus bord sur la mer salée pour savoir s'ils allaient résister longtemps. Ben, vous pouvez penser que ça a été une mort assez difficile, parce qu'on ne meurt pas facilement, on se noie pas, mais par contre on est brûlé par le soleil et par le sel, enfin, etc. Quoi. Voilà un petit peu l'histoire de ce matin. Et alors, donc, nous allons arriver à Jéricho. C'est une toute autre page que l'on va ouvrir, mais je ne dévoile pas ce que nous allons voir sur Jéricho. Je voulais dire simplement que, parce qu'on n'aura pas le temps après, on aura la messe aussi après, que ce soir, c'est donc le Shabbat, c'est-à-dire au coucher, enfin, 2 heures avant le coucher de soleil, tous les travaux s'arrêtent. Voilà pourquoi le site ce matin a été fermé, ou tout à l'heure se fermer à 3 heures. 2 heures avant le soleil se ferme, pour que les travaux s'arrêtent et que chacun puisse respecter le Shabbat. Et quand les gens se retrouvent à la synagogue, eh bien, ils chantent un cantique dont on a déjà parlé, et dont j'ai la traduction sous les yeux, vous aussi sans doute, c'est à la page 410. Ça s'appelle « Le Hadodi, viens ma toute belle, ma bien-aimée ». Donc, je vous le lis comme accueil du Shabbat. Vous allez voir que les paroles, nous pouvons y souscrire en tout point. Hein. Et ils vont raconter, ils vont rappeler le credo d'Israël, le Seigneur est l'unique, c'est le nôtre aussi. Hein. Allons, ami, le Hadodi, allons, ami, à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Souviens-toi donc, observe cette parole transmise par le Dieu unique, le Seigneur est un. Un est son nom, couvert de gloire et de louange. Allons, ami, à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Allons accueillir le Shabbat, source de bénédiction, destinée de temps immémorial à couronner la création. Allons, ami, à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Sanctuaire royal, ville royale, debout, relève-toi de tes ruines. Assez végété dans la vallée des larmes, la miséricorde divine t'attend. Allons, ami, à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Secoue ta poussière, lève-toi, pare-toi de tes vêtements de gloire, ô mon peuple. Voilà, il va monter un petit peu, je pense. Allons à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Réveille-toi, réveille-toi, ton homme point. Lève-toi, rayonne. Debout, debout, entonne un cantique. La gloire du Seigneur resplendit sur toi. Allons, ami, à la rencontre de la fiancée, accueillir le Shabbat. Le Hadodi. Voilà, tous les vendredis soirs, il le chante. C'est un cantique populaire.
Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être inconnues. Parlons d'abord de la Vigerie. La Vigerie est née à Bayonne, sur ma paroisse, mais sur votre diocèse.
Résidence.
Car Saint-Esprit et Saint-Étienne faisaient partie du diocèse des Landes et de Dax jusqu'en 1857. Voilà. Donc, il est né landais. Il est mort pyrénéen, ben, si on peut dire. Enfin, il est mort ici en Afrique du Nord. Enfin bon, bref. Donc, qui est-il ? Eh bien, il a fait des études au petit séminaire de la Ressort. Paraît-il qu'il n'était pas très 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 sage. Bon, mais bref, il a ensuite continué à Ayres-sur-Adour et ses études théologiques, il les a faites à Paris. Puis, il a été prêtre prêtre du diocèse, mais assez vite, il a l'intention de créer quelque chose, enfin, d'y dédier, c'est-à-dire, il y a l'appel au 19e siècle de la connaissance. Il y a le nouvel souffle religieux qui va souffler sur tous nos villages, tous les diocèses. Il y aura de multiples congrégations. Bon, chez nous, c'est les servantes de Marie, mais c'est les filles de la Croix aussi renouvelées. Bon, le monastère de Belloc, ça sera 1875, pardon. Mais voilà. Donc, ce 19e siècle est un siècle de renouveau. Alors, au même moment, c'est, comment dire ça, la France va se retrouver colonisatrice un petit peu avec tout le Maghreb, hein, en particulier. Bon. Alors, lui-même donc, sera appelé à circuler un peu à droite et à gauche. Il sera même nommé à Rome. Rome, ministère dépendant du pape, au bout de 3 ans, il s'y est ennuyé. Il disait, mais mon rôle, c'est d'être en France. Eh bien, il sera renvoyé en France comme évêque de Nancy. Et les Nancéens s'en souviennent encore, ils se demandaient pourquoi on évoquait la Vigerie à Bayonne, mais quand je leur ai dit, mais il est né à Bayonne, ah oui, donc ils comprenaient mieux. Mais pour eux, il a été évêque de Nancy. Et puis, le pape, ayant besoin de l'évêque en Afrique du Nord, eh bien, il sera nommé évêque d'Alger, dans des lieux qui n'avaient pas connu le christianisme depuis le 7e, 8e siècle. Les derniers évêques, le grand évêque d'Afrique du Nord, c'est Augustin, à Carthage. Et alors, celui-ci sera nommé archevêque, donc, à Carthage, et évêque de tout le Maghreb, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de diocèses ni de catholiques. Voilà, ça a accompagné la progression française dans ces pays-là. C'est au moment des colonies. Avait-il l'esprit colonisateur? Non, c'est un grand homme reconnu par beaucoup et reconnu par l'État français qui sera le plus laïque possible. Oui. Oui.
D'accord. Voilà, maintenant que vous avez vu la statue, on peut s'éloigner un petit peu sans dommage. Sans dommage. Avance un peu pour ne pas cacher le magasin. Et donc,
quand il est ici, dans l'Orient, en fait, l'Orient, c'est à la fois l'Afrique du Nord, mais aussi ce sont ces pays-ci, il a plusieurs intuitions. D'abord, il va rencontrer le monde musulman et il veut participer à l'expansion missionnaire, comme il y a les missionnaires d'Afrique, par exemple, voilà, ou bien d'autres congrégations qui vont aller en mission. Eh bien, lui, il se dit, il me faut quelques hommes avec moi pour témoigner de l'évangile ici, et vivant comme les gens d'ici. Alors, il va créer ce qu'on appellera les pères blancs, parce qu'ils vont adopter la tenue blanche comme la djellaba, et avec une grand chapelet, hein, devant, pour marquer qu'ils sont chrétiens, mais s'habiller comme le pays et vivre comme les gens du pays. Donc, il faudra qu'ils apprennent l'arabe, bon, et compagnie. Dans cet élan, il va venir par ici, il va constater qu'il y a des chrétiens arabes, lui aussi, peut-être qu'il ne le savait pas. En tous les cas, nous, quand nous venons ici, nous découvrons qu'il y a des chrétiens arabes. Parmi les chrétiens arabes, il y a de plusieurs confessions. On en a trouvé 13 l'autre jour, et il y a en particulier les melkites, c'est-à-dire les grecs catholiques, qui sont sans séminaire. Alors il se dit, eh bien, je vais demander à mes pères blancs de créer quelque chose au service de cette communauté chrétienne. Alors il va construire ici Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. Il va y installer la communauté des pères blancs qui auront en charge la formation du séminaire des Grecs catholiques. Alors, ce qui est remarquable, j'arrive à ça aux choses remarquables du père de la Vigerie, c'est que, alors que Rome n'a jamais été aussi romaine, qu'il y a Pie IX qui a régné et qui est vraiment, qui tire à boulet rouge contre le modernisme, il a édité le Syllabus qui condamne toutes les idées modernes qui ne sont pas dignes des chrétiens, eh bien lui, eh bien, il va se dire, mais cette communauté chrétienne ici est bien plus vieille que notre communauté romaine. Ils ont une langue, ils ont des pères de l'Église qui ont écrit, qui ont pensé, qui ont produit beaucoup de choses. Il faut que l'enseignement des séminaristes ici laisse tomber le latin, laisse tomber toute la théologie romaine et retrouve leurs racines orientales. Ça, c'est une première idée très moderne. Nous, il faudra que la Troisième République s'arrête et que la Cinquième commence pour se dire que les particularités linguistiques régionales ne vont pas attenter à la nationalité française. Bon, donc, vous voyez un peu tout le temps qu'il a fallu à l'intérieur. Mais le temps à l'intérieur de la nation n'est pas le même que le temps à l'extérieur de la nation s'agissant de la même France. Donc ici, eh bien, il va adopter cet enseignement au service de l'Église grecque catholique dans ce pays et pour le Moyen-Orient. Deuxième œuvre remarquable, le 19e siècle est aussi un siècle d'émancipation, et notamment de l'esclavage. Alors en France, l'esclavage a été aboli en 1848 par Victor Schœlcher, un député qui a fait adopter, alors qu'il avait été aboli une première fois avant Napoléon, enfin au moment de la Révolution, mais ça a très vite basculé, et la pression des puissances coloniales et compagnie étant très forte, eh bien, l'esclavage avait de nouveau été autorisé, mais définitivement interdit en France, interdit en 48. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu encore des esclaves, des esclavagistes, mais enfin, interdit en 48. Ce n'était pas le cas ici, dans l'Afrique. Alors il va monter des sociétés et récolter des fonds, en Belgique en particulier, pour racheter des esclaves. Voilà la deuxième œuvre colossale du père Lavigerie. Non seulement il va adopter les coutumes orientales pour former les séminaristes ici, mais il va avoir le génie de mobiliser toutes les énergies et toutes les finances possibles pour libérer les esclaves d'Afrique. Bon, ce n'est pas la seule œuvre. Dans nos manuels d'histoire, peut-être qu'il vous en souvient, nous avons appris que la Lavigerie a eu un rôle très important par rapport à la République française. Nous sommes maintenant à la fin de sa vie, on arrive en 1890, un autre pape règne à Rome et il s'appelle Léon XIII. Léon XIII, c'est le pape de la question sociale, mais aussi d'autres choses. Et alors, Rerum Novarum, la question sociale. Et donc, aussi autre chose, c'est que la France est mal depuis 100 ans. Elle est en pétard contre la Révolution, en pétard contre la Troisième République, qui devient de plus en plus laïque, et ça n'a pas fini, ce n'est pas fini, parce qu'il y aura les lois de laïcité en 1905. Mais nous sommes en 1890. Celui-ci, Lavigerie, a une parole libre. Vraiment, c'est un grand homme. Il a fait des choses remarquables, et l'armée, le voulant ou ne le voulant pas, Nolens, bon, quoi. Mais il s'est montré un homme libre. Eh bien, en 1890, nous sommes à Alger, et il reçoit, parce que c'est un grand personnage, il est créé cardinal, il était cardinal, et la marine nationale est royaliste, elle est très catholique. Bon, ça. Donc, il va porter un toast en l'honneur de toute la marine qui est là présente. Et dans le toast, il dit ceci, qu'il est temps que l'Église rallie la République. Silence de mort, tout le monde pose son verre, et sans dire un mot, s'en va. Et la Lavigerie reste là, plantée. Alors plantée par rapport à l'État français, par rapport à la marine, par rapport à tout ce qu'il vient de dire, mais plantée par Rome aussi. Il se disait, mais Rome va parler. Et il n'en a rien su en 90, rien su en 91, et avant sa mort en 92, eh bien, Rome, Louis XIII, Léon XIII, donc, dit la même chose que la Lavigerie. Si la Lavigerie avait parlé à Alger, c'était au nom de Rome. Mais Rome n'a rien dit, là. Par prudence, par ceci, par cela, enfin, etc. Ou parce qu'elle a eu peur, et puis toujours pareil, hein. Quand on prend une décision, on a tendance sur le recul, parce qu'il y a tellement de réactions en compagnie. Non, Rome a parlé, ce qui fait que la Lavigerie a pu mourir en paix. Voilà, donc c'est un grand personnage de l'État et de l'Église. Et si vous passez par Bayonne, vous verrez la Lavigerie en tendant la croix, dans la place réduite, la grande statue de la Lavigerie. Et il faut surtout lire le socle, c'est l'hommage unanime de l'armée et des politiques de la République par rapport à cet homme qui a fait autant pour l'Église que pour l'État. Vraiment. Un très très grand bonhomme, même si on l'a oublié, même si on ne le connaît pas, mais ça vaut le coup de s'arrêter sur ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un génie. Un génie. Je ne dis pas ça par chauvinisme, encore une fois, il est né dans les Landes. Même si c'est sur ma paroisse.
C'est pour ça.
Bon, voilà. Alors, ceci dit, maintenant...
حضارة أنتم وأنتم نهضة القيم.